Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonjour. En Ukraine, nouvelle étape de la désescalade dans la guerre entre Kiev et les séparatistes de l'Est. Un échange de prisonniers est en train de se dérouler. La correspondance sur place de Stéphane Siouan. Téhéran dénonce l'ingérence de Paris dans l'affaire Fariba Adelkha, cette anthropologue franco-iranienne détenue en Iran pour des accusations d'espionnage. Nous ferons le point sur ces tensions diplomatiques avec Nadine Epstein. Aux États-Unis, la résidence d'un rabbin aux abords de New York ciblée hier par une attaque à l'arme blanche. Plusieurs blessés, nous dira Loïc Loury. Au lendemain d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, encore une montée de tension entre l'exécutif et la CGT. Les précisions de Stéphane Genest. Nous évoquerons aussi cette première en France, un paquebot alimenté au gaz naturel liquéfié largue les amarres ce dimanche depuis le port de Marseille. Et puis comme chaque dimanche, dans 10 minutes, nous retrouverons Nabila Hamel pour la face cachée du globe. Direction Moscou, la Russie souhaite isoler son réseau internet des serveurs mondiaux. Un important échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine est en cours. C'est la présidence ukrainienne qui l'annonce. Stéphane Siouan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Kiev. On fait le point sur cette journée cruciale. Stéphane, où en est-on exactement de cet échange de prisonniers?
Eh bien, en début de matinée, les deux camps ont fait venir des bus sur un point de contact de la ligne de front du Donbass, près de la ville de Gorlivka, et ce, en l'absence d'une grande majorité de la presse qui n'a pas été autorisée à se rendre sur place. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que les séparatistes vont rendre 55 prisonniers à l'Ukraine, principalement des soldats, mais aussi quelques civils, ainsi qu'un journaliste de Radio Free Europe détenu à Donetsk. Les Ukrainiens vont quant à eux libérer 87 individus, et c'est justement cette liste qui provoque déjà un intense débat en Ukraine. En effet, selon toute vraisemblance, Kiev va libérer 5 officiers Berkout, ces forces spéciales anti-émeutes qui avaient réprimé la révolution de Maïdan. Les 5 hommes sont suspectés d'être responsables de la mort de 48 manifestants à Kiev le 20 février 2014. Ce samedi soir, une cour d'appel de Kiev a prononcé un jugement qui les a libérés. Sans avoir eu à répondre devant la justice de leurs actes, ils ont donc pu être mis sur la liste des prisonniers échangeables.
Est-ce qu'il s'agit là, Stéphane, d'une prise de risque du président ukrainien Volodymyr Zelensky?
Ah oui, complètement. C'est un pari politique très risqué. Très clairement, Moscou, mais aussi Paris et Berlin ont fait pression sur Kiev afin d'accepter ce scénario qui sert les objectifs du Kremlin en introduisant la discorde et la zizanie dans la société ukrainienne. Car ce qui est en train de se passer, c'est que Volodymyr Zelensky fait un troc. Il échange la liberté de ses prisonniers ukrainiens après presque 6 ans de guerre contre l'idéal de justice pour les événements de Maïdan, un événement historique pour toute une génération. Et pour cela, il pourrait subir les foudres d'une partie de son opinion publique, pas seulement les anciens combattants ou les nationalistes, mais également tous ceux qui ont cru dans les idéaux de la révolution de Maïdan.
Les explications de Stéphane Siouan, correspondant à Kiev. Merci beaucoup. Eux, en revanche, sont toujours captifs en Iran. 2 universitaires français, Fariba Adelkha et Roland Marshall, détenus depuis le mois de juin. Téhéran hausse le ton contre Paris. Les autorités iraniennes accusent aujourd'hui la France d'ingérence au surlendemain de la convocation de l'ambassadeur d'Iran au Quai d'Orsay, Nadine Epstein.
La demande française d'une libération sans délai des 2 chercheurs français adressée à Téhéran vendredi vient d'être rejetée par l'Iran. L'Iran proclame que la France n'a pas à se mêler d'une affaire d'espionnage et de sûreté nationale impliquant une citoyenne iranienne et un ressortissant français dont les droits et les contacts avec son consulat ont été respectés. Détenus depuis près de 8 mois, la situation des 2 universitaires s'aggrave. Les discrètes négociations diplomatiques s'avèrent si infructueuses que Fariba Adelkha, inquiète pour son sort, observe depuis mardi une grève de la faim illimitée. Retenue par les gardiens de la Révolution, elle a parlé de conditions de détention extrêmement dures, de torture psychologique et de violation des droits humains fondamentaux. L'anthropologue ne peut pas s'entretenir avec des représentants français. Téhéran ne retient que sa nationalité iranienne, bien qu'elle soit aussi française. Les accusations iraniennes d'espionnage et de complot contre la sûreté sont grotesques, ont protesté les collègues des deux universitaires emprisonnés. Ils ont proposé que la France suspende sa coopération scientifique et universitaire avec Téhéran en signe de désapprobation.
La précision signée Nadine Epstein. 5 combattants séparatistes tués aujourd'hui au Yémen dans une attaque à la roquette. Elle visait une parade militaire dans le sud du pays. Une attaque qui intervient alors que les combats entre forces loyales au président et rebelles houthis ont baissé d'intensité ces derniers mois. Aux États-Unis, près de New York, plusieurs personnes réunies pour une fête juive ont été attaquées hier soir à l'arme blanche. La résidence d'un rabbin hassidique était ciblée. 5 personnes ont été blessées selon une association juive orthodoxe. 2 seraient dans un état critique. À New York, Loïc Loury.
J'ai prié pour ma vie, affirme l'un des témoins. L'arme utilisée, dit-il, avait la taille d'un manche à balai. L'attaque est survenue un peu avant 10h à Monsey, quelques dizaines de kilomètres au nord de New York. C'est la résidence d'un rabbin hassidique qui a été prise pour cible. Sur place, des juifs orthodoxes réunis pour les célébrations de Hanouka. Un homme y a donc fait irruption avant de poignarder quiconque se trouvait à sa portée. L'individu en question prend alors la fuite, finalement rattrapé 2 heures plus tard dans le quartier new-yorkais de Harlem. La police ne précise pas encore les circonstances et surtout les mobiles de son attaque. Mais tout cela en tout cas intervient alors que les autorités ont enregistré ces derniers mois une recrudescence des actes antisémites dans la région. Nous ne tolérerons pas, affirme le maire de New York, que cela devienne une nouvelle normalité. Il y a 3 semaines notamment, une fusillade avait fait 4 morts dans une épicerie cachère de Jersey City, juste en face de New York. Les enquêteurs avaient évoqué des faits de terrorisme intérieur.
Loïc Loury à New York pour France Culture. En Algérie, un universitaire nommé Premier ministre pour regagner la confiance du peuple. C'est ce que souhaite en tout cas Abdelaziz Djerad. La passation de pouvoir avec le Premier ministre par intérim Sabri Boukadoum a eu lieu hier. Djerad a désormais la tâche de former un nouveau gouvernement. Djerad, érudit donc, ancien directeur de l'École nationale d'administration d'Alger. Il aura fort à faire après un 45e vendredi consécutif de contestation. Des centaines d'Irakiens bloquent ce dimanche pour le second jour consécutif l'accès à un champ de pétrole dans le sud du pays. Plusieurs villes restent paralysées par un mouvement de contestation déclenché il y a 3 mois. Les manifestants réclament des emplois. En France, le calme est revenu dans les rues au lendemain d'un samedi marqué par de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites. Malgré les vacances et la période des fêtes, plus de 10 000 personnes ont défilé à Paris et en région. En revanche, les passes d'armes entre syndicats et gouvernement continuent dans la presse aujourd'hui, dans le journal du dimanche. Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour.
Alors Philippe Martinez de la CGT n'y va pas de main morte. Il accuse le gouvernement d'organiser, je cite, le bordel.
Oui, pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, le gouvernement organise, je cite, le bordel et joue le pourrissement du conflit sur cette réforme des retraites. De son côté, Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux transports, dénonce une pression contre les cheminots non grévistes. Dans ses entretiens publiés dans le journal du dimanche, Jean-Baptiste Djebbari s'en prend explicitement à la CGT, l'accusant de politiser à l'extrême gauche le mouvement de grève. Il dénonce également l'attitude de la CGT cheminots et de Sudrail qui, selon lui, joue à la politique de la chaise vide. Philippe Martinez reste quant à lui déterminé. Il compare Emmanuel Macron à Margaret Thatcher et il persiste, considérant qu'avec la grève, les syndicats obtiendront quelque chose. Le leader de la CGT critique avec fermeté l'exécutif en estimant, je cite, que le gouvernement fait pleurer dans les chaumières pour jouer le discrédit sur les grévistes. Emmanuel Macron est lui quasi muet depuis le début du conflit. Il s'est contenté de demander une trêve pour les fêtes lors de son déplacement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État se ménage ainsi une possible fenêtre de tir pour son allocution du 31 décembre afin de débloquer la situation ou au contraire camper sur ses positions. Chacun est donc dans son rôle, menant ainsi une guerre de position alors que la grève continue. Peu d'avancées ni de compromis en cette fin d'année. Les prochaines négociations entre l'exécutif et les syndicats se dérouleront le 7 janvier.
Stéphane Geneste, merci. Le gouvernement a quand même lâché du lest. Hein. Il a préservé les militaires, accordé des dérogations aux policiers, aux pilotes ou encore aux danseurs de l'opéra. Une décision pas au goût de certains danseurs qui ont publié un texte sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent en fait le fait que la concession ne s'applique qu'aux danseurs recrutés après 2022. La grève à la SNCF, encore et toujours, côté trafic, 6 TGV sur 10 et 1 Transilien sur 5 circulent en moyenne ce week-end. À Paris, 13 lignes de métro sur 16 sont fermées. Direction Marseille maintenant, où des passagers embarquent aujourd'hui sur un paquebot bien particulier. Il est alimenté au gaz naturel liquéfié, le GNL. Avec son paquebot moins polluant, la compagnie italienne Costa veut répondre aux demandes des associations de défense de l'environnement. Un rythme de croisière écolo au départ de la France, c'est une première et c'est un gros défi, Philippe Bocara.
Ce paquebot à plus d'1 milliard d'euros est un vrai pari technologique. En effet, le gaz naturel liquéfié doit être stocké à moins 160 degrés. Mais face à l'obligation de rendre durable la croisière, le GNL est choisi. Georges Azouz, le président de Costa France.
Ça représente par exemple 0% de soufre rejeté dans l'atmosphère, 20% en moins de CO2, 95% de particules, etc.
À Marseille, des associations de riverains du port se sont mobilisées face aux centaines d'escales de paquebots. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Costa Smeralda, la fédération Provence-Alpes-Côte d'Azur de France Nature Environnement reconnaît une avancée, mais attention, son président Gilles Marcel.
C'est une bonne nouvelle, mais on ne va pas applaudir à tout rompre parce que ça reste un gros navire avec une pollution moindre, mais qui engendre tout de même de la pollution.
Avec l'arrivée de ce premier navire au GNL, Marseille veut montrer l'exemple. Jean-François Suas, le président du club croisière Marseille-Provence.
Nous aurons l'année prochaine 15% de nos escales au GNL et je pense qu'en 2025, on sera à la moitié.
À Marseille et en Provence, l'activité croisière représente plus de 300 millions d'euros de retombées économiques.
Philippe Bocara de France Bleu Provence. C'est l'heure de la face cachée du globe maintenant qui nous emmène aujourd'hui à Moscou. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour Louis Valentin.
Alors,
La révolte en Irak prend différentes formes, y compris celle du boycott des produits fabriqués en Iran. De plus en plus irrités par la corruption de leurs responsables et l'influence du voisin iranien dans les affaires politiques de leur pays, les manifestants irakiens anti-système vendent dans leur campement des produits fabriqués chez eux et incitent leurs compatriotes à délaisser les fruits, laitages et autres boissons sucrées iraniennes. Les contestataires appuient là où cela peut faire mal à l'Iran, qui est soumis à des sanctions. L'Iran est le deuxième exportateur vers l'Irak après la Turquie, ce qui représente environ 9 milliards de dollars pour Téhéran. Aujourd'hui, les manifestants irakiens appellent à faire en sorte que l'argent reste dans le pays et que la production nationale soit encouragée pour créer des emplois. Sur place, les réseaux sociaux encouragent d'ailleurs ce mouvement. Reste que l'état actuel de l'économie irakienne ne permet pas de satisfaire toute la demande nationale. Le troisième parti d'opposition thaïlandais est dans le collimateur de la justice. Les juges de la Cour constitutionnelle devront décider le 23 janvier si le parti et son chef, un milliardaire thaïlandais, ont mené des actions à l'encontre de la monarchie. Un premier pas vers la dissolution de ce parti. Le parti du futur, qui a déjà fait l'objet de plusieurs procédures, a obtenu 6 millions de voix aux élections législatives de mars dernier et 80 sièges au Parlement, en particulier grâce au suffrage des jeunes. Et fait rarissime en Thaïlande, il a réussi à faire sortir des milliers de manifestants il y a 15 jours pour réclamer la démocratie. L'Internet russe, le Runet, comme l'appellent les initiés, a tenu le choc. Du moins, les autorités ont qualifié de positif les tests destinés à le déconnecter du reste de l'Internet mondial et le faire fonctionner en pleine autarcie. Moscou se défend de vouloir contrôler la toile, à l'instar de ce que fait le gouvernement chinois. Mais, Jean-Didier Revoin, cela est loin de dissiper les inquiétudes des internautes, d'autant que le pouvoir russe pourrait ainsi bloquer certains contenus venus de l'étranger.
En début de semaine, les autorités russes ont simulé la déconnexion de la Russie des grands serveurs mondiaux situés en Europe et aux États-Unis. Le but de l'opération, s'assurer de la stabilité et de la sécurité des communications et vérifier que les serveurs de l'État comme le réseau bancaire soient en mesure de fonctionner. Un exercice que le pouvoir a qualifié de réussi alors que nombre d'observateurs, à l'instar du politologue Andrei Kolesnikov du centre Carnegie à Moscou, dénoncent une fermeture totale et absolue de l'Internet russe, également appelé Runet.
C'est une restriction de la liberté, tout d'abord
mort de la liberté de circulation de l'information. Ces tests n'ont pas lieu parce que quelqu'un en Occident s'apprêterait à déconnecter la Russie d'Internet, mais au contraire parce que Poutine et son élite souhaiteraient, à un moment donné, avoir la possibilité de couper la Russie du reste du réseau mondial. C'est le stade ultime de l'isolationnisme. Il se prépare à la guerre en général, il se prépare à fermer le pays.
En effet, pour que le Runet fonctionne de manière autonome, les opérateurs actifs en Russie ont été contraints de faire passer les données par des points de routage contrôlés par une agence gouvernementale. Dans de telles conditions, les autorités peuvent ainsi inspecter le trafic et interdire les contenus qu'elles estiment inappropriés, raison pour laquelle Andrei Kolesnikov estime que les Russes pourraient contester énergiquement cette évolution.
Il me semble que cela peut être un mouvement dangereux pour le pouvoir lui-même, car s'il viole technologiquement la vie privée des citoyens, cela peut beaucoup les énerver, les agacer.
Le découplage du net russe, du reste de l'Internet mondial et les possibilités de contrôle qu'il implique viennent en effet s'ajouter à une législation déjà rigoureuse régissant les propos tenus sur Internet, à l'interdiction faite aux entités publiques d'acheter du matériel de stockage étranger, ainsi qu'à l'obligation de stocker en Russie les données relatives aux citoyens russes, une obligation que le réseau professionnel LinkedIn a déclinée et qui lui vaut d'être inaccessible depuis la Russie.
La Banque centrale libanaise compte enquêter sur de possibles transferts d'argent massif à l'étranger en 2019. Le gouverneur de cette banque a fait cette déclaration jeudi. Elle intervient dans un climat de contestation contre la classe politique accusée d'incompétence, de corruption et de grave crise économique, la pire qu'ait connue le pays depuis la fin de la guerre civile de 1975 à 1990. À dimanche prochain.
Nabila Hamel pour la face cachée du globe. Merci. La météo, si c'était gris chez vous ce matin, rassurez-vous, la grisaille se dissipera plus ou moins rapidement pour laisser place à de belles éclaircies cet après-midi. Côté température cet après-midi, 5 à Lille, 9 à Brest ou encore 13 à Marseille. C'est la fin de ce journal préparé avec l'aide de Julien Loquet à la technique. C'était Swad Boukorsa.